Bienvenue sur le podcast Un temps pour naître. Je suis Edwige et dans la vie, je suis accompagnante périnatale. Qu'est-ce que c'est que ce métier ? Eh bien, mon rôle, c'est d'apporter du soutien, une oreille attentive, une épaule soutenante, du bien-être, des informations et des outils aux futurs et jeunes parents dès le désir d'enfant. Vous l'aurez compris, c'est un métier passion que j'exerce à Vannes, en cabinet et en visio, depuis 2020. En fait, ce qui me passionne, moi, c'est l'humain. Et c'est fou comme ce passage du devenir parent peut être à la fois si chamboulant, transformateur et en même temps si tabou. Alors pour dépasser le cadre individuel, je m'appuie sur les grands questionnements et les réflexions issues des accompagnements pour vous partager un épisode chaque mardi. Bonne écoute ! Hello hello, bienvenue dans cet épisode où on va parler des relations familiales quand on devient parent. Alors, pour les personnes qui me suivent régulièrement, je suis navrée, je n'ai pas posté d'épisode mardi dernier. C'était les vacances scolaires avec mes 3 plus 2 enfants, donc 3 enfants et 2 beaux enfants. Et je pensais avoir le temps, l'énergie de faire un épisode, ou même de rediffuser, et ça n'a pas du tout été le cas. Et je l'ai fait sans regret, parce que je sais que là, je vais me consacrer un peu plus au podcast. Donc, pour une course de fond, c'est important de savoir lâcher prise à certains moments. Et aujourd'hui, je reviens avec un épisode qui, je pense, va faire du bien à beaucoup de personnes parce que c'est un enjeu assez majeur, assez sensible chez à peu près toutes les familles, j'ai l'impression. Rares sont les familles hyper tolérantes, sans jugement, pacifistes et raccord sur les visions de la parentalité, de la façon dont on gère notre progéniture et notre procréation. Alors, je ne sais pas encore comment je vais intituler cet épisode, mais en gros, je vais vous apporter des clés pour mieux vivre les relations familiales et amicales aussi dans le passage du devenir parent, si vous êtes en période de préconception ou même que vous ne voulez pas d'enfants et que c'est un vrai sujet pour vos proches, que vous êtes en essai bébé et que parfois il peut y avoir des remarques un peu blessantes, que vous êtes pendant la période de grossesse ou même en postpartum, et c'est d'autant plus quand l'enfant est là que c'est des sujets très récurrents, même si j'ai bien conscience pour accompagner beaucoup de personnes en préconception que quand on n'a pas d'enfant passé l'âge de 28-30 ans, ça suscite énormément d'interrogations, surtout pour les personnes qui vivent en couple. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de comprendre un petit peu la dynamique familiale autour de l'arrivée d'un enfant dans un foyer. Voilà, qu'est-ce que ça suscite chez les personnes autour ? Alors je dis familial parce que c'est souvent dans la famille que ça va susciter des engouements, des émotions très très vives, mais ça peut être aussi les amis, voire les collègues, les voisins, etc. Donc on va explorer un petit peu tout ça, et surtout je vais vous donner quelques clés, trois clés principales pour mieux vivre cette période-là, et je vous donnerai un petit cadeau en épisode bonus. Donc déjà, ce que je tiens à vous partager, et c'est vraiment une observation tout à fait d'abord personnel, parce que je suis moi-même au sein de plusieurs familles, entre la mienne et mes belles familles, parce que je ne suis plus avec le papa de mes enfants. Donc voilà, il y a des questionnements autour des cercles familiaux, mais aussi amicaux, plus ou moins. Moi, j'ai pas trop cette problématique, on va dire, où avec mes amis, on ne se comprend pas. J'ai des amis qui n'ont pas du tout d'enfants, et j'ai d'autres amis qui en ont, mais pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup d'ouverture et de tolérance. C'est plutôt sur le côté familial qu'il peut y avoir, par certains moments, des défis. Même si là mes enfants sont plus grands, et je pense que c'est moins vif quand les enfants grandissent parce que les personnes s'habituent. Quand c'est des familles, on va dire, plutôt saines, et je parle pas des climats absolument toxiques que je peux croiser en accompagnement. Et donc voilà où je voulais en venir, c'est que c'est surtout des observations qui sont faites au travers des accompagnements que je peux vivre avec les personnes. Et donc on va beaucoup parler de l'ambiance familiale, de comment ça s'est construit et qu'est-ce que les personnes traversent à ce moment-là. Et je suis là aussi pour vous éclairer dans du cas par cas pour mieux vivre ces moments-là. Mais déjà dans le podcast, on peut essayer de faire quelque chose d'un peu global, et peut-être que les clés que je vais vous partager vont vous aider. Donc ce qu'on peut observer, c'est que quand on est dans ce tournant de notre vie où on devient parent pour la première fois ou même après, ou même quand on n'est pas encore concerné mais qu'on commence à avoir l'âge de le faire, l'âge social, hein, parce que l'âge physique, il est très très tôt, là ça pose question à personne, mais plus tard, voilà, quand on arrive aux alentours de la trentaine, hein, globalement, bah, ça interroge les proches, quoi. Et suite au choix d'avoir un enfant, ben, quand il y a des essais bébés, c'est pas toujours évident. Il y a des vraies questions de est-ce qu'on le dit ou pas, est-ce qu'on le partage aux proches ou pas. S'il y a une infertilité, ça c'est encore un autre passage. Comment on souhaite être épaulé dans ce moment-là ou pas, le vivre en huis clos. Et puis, bien sûr, une fois que la grossesse est là, il y a la question de comment on vit les choses et le regard que peuvent porter nos proches et sur l'accouchement et comment ben, voilà, on va vivre le maternage, donc le postpartum. Et c'est souvent tourné autour de l'enfant. Il va y avoir peu de réflexion autour de comment toi tu le vis et comment tu te sens. C'est beaucoup plus tourné vers l'enfant. C'est culturel. Hein. Enfin, là, je suis française, j'enregistre cet épisode depuis la France. Je sais qu'il y a plein d'autres cultures où on ne voit pas forcément les choses de cette façon. Alors, si on analyse un petit peu le monde occidental tel qu'il est aujourd'hui, même s'il évolue grâce à plein de mouvements, de réflexions, et puis parce que toutes les cultures évoluent en permanence, on vient quand même d'une culture assez individualiste, nucléaire, hein, donc c'est-à-dire que les noyaux familiaux, ils sont plus en groupe de génération, où il y a la grand-mère, la tante, la mère, la fille, la petite-fille, etc., et puis les hommes... C'est plutôt voilà, un foyer avec un couple, voire un parent solo, et puis un ou des enfants, ou des essais d'avoir un ou plusieurs enfants. Et donc ça crée bah, du coup une scission de vision. On n'est pas... alors voilà, il va y avoir la façon dont nous on a grandi, dont on a été élevé, les modèles dans les autres foyers autour, et c'est déjà des sujets parfois conflictuels, et la communication n'est pas toujours au beau fixe. Nous ne venons pas d'une culture où communiquer sainement fait partie des mœurs pour beaucoup de familles. Donc c'est souvent des sujets à couteau tiré. Et quand on aborde l'aspect devenir parent, c'est d'autant plus décuplé. J'ai vraiment cette sensation qu'on est dans une période hyper sensible, au sens vraiment propre du terme, pour à la fois bah, nous qui, quand je dis nous, c'est les personnes qui deviennent parents, qui traversons ce passage-là en premier lieu, mais aussi pour les proches. Les proches qui gravitent autour, ça peut être vraiment chamboulant de vivre à côté des personnes qui deviennent parents parce qu'on a projeté des choses sur la relation qu'on avait avec cette personne et cette personne devient parent. Et donc là, ça vient faire évoluer. Il y a comme un jeu d'échecs, vous voyez, surtout dans une famille où, bah, par exemple, nous, on devient parents et donc nos parents deviennent grands-parents. Et ça peut être hyper confrontant pour eux. Et il y a aussi les frères et sœurs qui deviennent oncles et tantes ou qui redeviennent oncles et tantes. Et en fait, on redistribue les rôles de la famille et les liens. Il va y avoir des changements à ce moment-là, mais c'est totalement inconscient. Hein. C'est des choses qui se font en toile de fond. Et on va se référer à comment nous, on a été mis dans cette place en tant qu'enfant. Donc nos grands-parents, ils vont devenir arrière-grands-parents. Donc eux, ils vont aussi se souvenir de comment ils ont passé d'une génération à l'autre, sur trois niveaux du coup. Si on a toujours nos grands-parents, nos parents, eux, deviennent grands-parents et ça va faire écho à leurs propres parents, voire leurs grands-parents. Et ils ont aussi le mal de vieillir. Et il y a aussi quelque chose qui est hyper important, c'est le modèle sur lequel on va vivre ces choses-là. Les modèles ont énormément évolué en trois générations. Je dis trois générations parce qu'en général, sur une famille, il va y avoir plusieurs rangs, mais il y a à peu près trois rangs, voire on met au monde le quatrième, quoi. Après, ça dépend si vous avez des parents jeunes, etc. Ou peut-être que vous n'avez pas forcément vos grands-parents, ça dépend vraiment des familles, des configurations familiales. Et puis, sur une même génération, si on parle par exemple de la sphère amicale, voisin, etc., ou même les collègues, eh bien, il va y avoir plusieurs visions pour vivre la parentalité, et donc on va être un peu pris en sandwich entre la façon dont nous on a grandi et la vision qu'on nous a transmise, bon gré mal gré, consciemment ou inconsciemment, hein, la façon dont on a été parenté, donc materné, paterné, et puis ensuite éduqué, comment nos parents ont vécu la phase de préconception, de grossesse, d'accouchement, de postpartum, va venir donner une empreinte très très forte à l'intérieur de nous, et souvent on va être en réaction à cette empreinte-là. Et puis il va aussi y avoir les modes. Les modes d'éducation, les modes de maternage, tout ce qu'on va se dire, tout ce qu'on va communiquer autour de cette période-là, Et aujourd'hui, donc j'enregistre cet épisode en 2024, on s'éduque beaucoup sur les réseaux sociaux et sur Internet. Hein. Je suis la première coupable hein, à taper sur Google des phrases clés que je pourrais pas trop vous citer là, j'ai pas d'exemple, mais en gros, dès que j'ai une problématique émotionnelle, ça m'arrive très facilement sur Google d'aller taper « que dois-je faire ?» si nanana, et d'aller voir sur... alors les forums, il y en a plus beaucoup, je crois, mais des sites Internet spécialisés avec un œil de psy, etc., pour me donner un point de vue. Et je vais pas forcément tout de suite appeler... quelqu'un de ma famille ou un proche directement. Donc il y a tout ce qui va être collectif et très tendance et donc comme un objectif à atteindre parce qu'aujourd'hui en 2024 c'est comme ça qu'on voit les choses. Il va y avoir la sphère familiale, amicale, collègue, etc. qui va avoir ses propres visions, et il va y avoir aussi un flux entre ces canaux-là, c'est-à-dire entre nous et les personnes qui gravitent autour de nous. Il va y avoir une façon de communiquer qui va être plus ou moins douce, plus ou moins respectueuse, plus ou moins bienveillante, et ce qui va générer des malentendus et des conflits, ce qui est fort dommage, quand, encore une fois, il s'agit d'un entourage sain, hein, je parle pas des climats toxiques, et ça date pas de la maternité, quand on se rend compte que nos parents, nos grands-parents, nos frères et sœurs, nos cousins, nos voisins, nos collègues ou nos amis, il peut y avoir des personnes... qui vont avoir un comportement toxique avec nous, ou alors que notre relation mutuelle, elle est pas saine. Ça date pas d'hier seulement. Parfois, c'est quand on devient parent que pouf, tout éclate à la figure. Pourquoi ? Parce que l'ocytocine, qui est l'hormone qui va rentrer principalement en jeu dans ces processus du passage du devenir parent, c'est une hormone de lien d'attachement, donc qui va beaucoup se développer à l'intérieur de notre cerveau et qui va nous donner un instinct de louve. Alors je parle au féminin, mais chez les hommes aussi, ça fonctionne si et seulement si ils se sentent proches et concernés et qu'ils s'investissent dans leur parentalité. Donc il y a une vraie contagion psychologique et cérébrale, hormonale chez l'homme. Donc en tout cas chez le coparent, ça fonctionne très bien aussi pour les couples de femmes. Et donc cet instinct de louve va nous inviter à être en mode protection. Il y a vraiment la question de ma place, mais qui va être exacerbée. Pourquoi ? Parce qu'on est responsable, ou on souhaite devenir, ou on est en train de devenir responsable d'un être humain qu'on est en train de fabriquer. Et donc tout ça, c'est très précaire, c'est en train de se construire, c'est les fondations. Et on a vraiment ce truc génétique là de protection, pas touche, laissez-moi tranquille, qui est plus ou moins affirmé, mais quand le processus se fait bien, on passe par là. Moi, je l'ai très bien observé, surtout pour ma troisième grossesse et suite à mon troisième accouchement, donc mon troisième postpartum. Pourquoi ? Parce que j'ai vécu les choses avec beaucoup plus de physiologie. C'était un réel souhait. J'étais aussi mise avec des ressources qui m'ont permis de pouvoir comprendre comment fonctionnait mon corps, etc. J'ai pu aussi me permettre de pouvoir accoucher de façon physiologique parce que j'ai trouvé le bon accompagnement et parce que mes données de santé me le permettaient. Donc c'était chouette. Et les choses se sont faites ainsi. Et donc l'instinct de protection s'est beaucoup plus fort développé. Mais c'est pas toujours facile à vivre parce que quand on a déjà une problématique pour se positionner au sein d'un groupe, eh bien ça vient vite se rentrer en confrontation avec tout ça. Donc voilà, il y a toute cette tout ce contexte-là qui est multifactoriel, qui va venir se réveiller à ce moment, et c'est pas toujours facile à gérer. Parce que le but d'un groupe social, même si parfois les conflits peuvent faire partie du voyage, le but c'est quand même qu'on se sente soutenu, épaulé, voilà, c'est la meute. Et quand on vit des malentendus, des malaises et des conflits sociaux, c'est très 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 difficile à vivre émotionnellement, parce que dans nos gènes préhistoriques, le fait d'être rejeté par le clan ou de ne pas être en accord avec le clan, c'est synonyme de mort. Parce que il fut un temps, pas nous directement, mais nos ancêtres ne pouvaient pas vivre seul sans mourir face à l'hostilité du contexte de la nature. Et donc on a toujours ces traces-là dans nos gènes, et donc ce qui crée, donc aujourd'hui on va pas mourir hein, physiquement, mais on peut avoir des petites morts intérieures quand on se sent rejeté, on se sent pas validé par nos proches. Et aujourd'hui il y a beaucoup de situations qui ouvrent à tout ça. Pourquoi ? Parce que comme je le disais tout à l'heure, la façon d'élever, de materner, de vivre nos grossesses, nos maternités, nos accouchements, nos postpartums, et même la période des essais bébés a tellement évolué que nos aïeux qui s'y retrouvent pas forcément, et même dans les cercles amicaux, ça vient vite nous confronter parce que quand on voit des personnes qui font pas comme nous et qui l'affirment et qui l'assument, ça peut être très confrontant parce que ça peut, quand on n'est pas très ancré, qu'on n'a pas mûrement réfléchi en conscience avec tout ce qu'on a fait, et même quand on l'a fait, on a fait des choix qu'on regrette très souvent dans la parentalité, et moi aussi d'ailleurs, voilà, j'en fais partie, je suis loin d'être exempte de tout cela parce que je suis un être humain avant d'être une accompagnante périnatale, et d'autant plus d'ailleurs quand on a énormément conscience des choses, eh bien le fait de voir les proches qui vont vivre une autre façon de faire, ça peut impacter l'estime personnelle d'être un bon parent. C'est très confrontant, moi je pense en particulier aux grands-parents, pas forcément de mon côté, mais de façon générale, que les grands-parents voient que leurs enfants, qui deviennent parents, font pas comme eux. Ça peut être vraiment très très dur pour eux. Alors il y a des grands-parents qui l'acceptent très bien parce qu'ils sont à l'aise avec ce qu'ils ont vécu, ils sont en conscience. Et puis il y en a d'autres qui vont le prendre comme un affront, quoi, qui vont se dire mais c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça que j'ai fait. Alors soit il y a des personnes très bornées qui n'ont pas été amenées à se remettre en question, et il y en a beaucoup, donc ben voilà, ça c'est des personnes qui ont un problème avec elles-mêmes et les autres. Et puis il y a des personnes pour qui ça va être en fait violent de s'apercevoir que leurs propres enfants qui ont reçu leurs soins à eux font différemment. Ça peut être une douleur d'estime personnelle autour de notre façon d'avoir été parents, quoi. Et ça peut être vraiment douloureux. Et même chez les amis ou les proches sur le même plan au niveau de la génération, bah c'est de se dire pourquoi ils font pas comme moi, ça veut dire que je fais mal, ou alors je préfère dire que eux ils font mal parce que sinon ça veut dire que moi il faut que je me remette en question et fuck quoi. Donc c'est des choses qui sont très très à vif. Moi j'aime bien avoir l'image du bateau. Alors moi qui suis bretonne évidemment, hein, on va prendre des images un peu locales, mais quand on devient parent, on construit notre propre bateau avec nos membres d'équipage. On a nos propres membres d'équipage et c'est nous qui avons le gouvernail. C'est nous qui avons le gouvernail et donc là, c'est un nouveau rôle et on est aussi responsable en fait. Et ça peut être assez flippant et pour beaucoup de personnes hein, d'avoir cette responsabilité avec encore plus de conscience que les générations d'avant parce qu'on découvre plein de choses sur comment on devient traumatisé. Et donc d'être conscient de tout ça, ça met un poids sur nos épaules, des attentes. Et on quitte le navire, alors on l'a déjà quitté en devenant adulte, mais on quitte définitivement le navire de nos propres parents qui ont toujours été habitués à prendre le gouvernail, et donc c'est très tentant. Alors je dis nos parents parce que c'est souvent ça, mais ça peut être d'autres personnes évidemment, qui vont être tentées de prendre en main notre propre gouvernail. Et notre rôle, que ce soit personnel ou chez le coparent, le conjoint ou la conjointe, c'est de garder le gouvernail en main, sans forcément jeter par-dessus bord les personnes qui pensent bien faire et qui voudraient prendre le gouvernail à notre place. Alors, jetez-les par-dessus bord si ce sont des personnes qui ne sont pas bienveillantes avec vous. Évidemment, on n'est pas obligé de maintenir des liens, même si on a des liens du sang, et des liens, entretenir des liens dans le temps avec des personnes qui ne nous font pas du bien. Voilà, je referme cette petite parenthèse. Je parle encore une fois des situations où on a envie d'être bien avec les personnes, tout en gardant le gouvernail en main. Et vous n'avez pas à lâcher le gouvernail au profit des personnes qui aimeraient tellement le prendre pour vous, parce que c'est très insécurisant pour eux ou pour elles de vous laisser faire, parce que ça remet trop de choses en question pour elles et pour eux. Alors voilà, ils vont prendre le gouvernail à votre place. Non, ça c'est pas des relations équilibrées, donc ça nous demande un taf, se positionner. Alors là, du coup, je vais vous donner 3 pistes pour aller vers ça, pour tendre vers une autonomie et en même temps une préservation des liens de proximité avec les proches. Ça veut rien dire, hein, les liens avec les proches, tout court, des liens satisfaisants, voilà, tout en se positionnant sur notre façon de vivre les choses. Alors la première, c'est d'abord de réfléchir à vos souhaits. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous ? Comment vous souhaitez vivre les choses ? Est-ce que vous avez besoin d'avoir un avis autour de vous ? Est-ce que vous savez ce que vous souhaitez ? que ce soit dans... voilà, ça dépend où, à quel stade vous en êtes, évidemment, mais déjà dans la période des essais bébés, est-ce que vous souhaitez en parler ou pas? Est-ce que vous voulez faire ça en autodidacte? Donc déjà, voilà, comment vous souhaitez être épaulé, même pendant la grossesse, l'accouchement qui sera, voilà, qui sera au courant au moment de l'accouchement, et puis bah, surtout après, quoi, quelle place vous souhaitez que vos proches prennent, et puis quels sont vos souhaits pour votre propre façon de vivre les choses à vous, voilà, quelle grossesse vous souhaitez vivre, comment vous souhaitez vivre vos essais bébés, même si la plupart du temps on va dire le plus vite possible et éviter les mois de frustration, mais voilà, globalement dans quelle énergie vous avez envie d'être, la grossesse, qu'est-ce qui est important pour vous, la mise au monde de votre bébé aussi, et puis l'après, comment vous souhaitez l'accueillir, dans quel environnement, voilà, s'il y a des choses qui se font aujourd'hui, qui sont connues, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous parle moins, est-ce que vous êtes en hésitation, que ce soit avec l'accouchement, est-ce que vous le souhaitez dans la physiologie ou pas, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous sécurisent, est-ce que vous pouvez d'ailleurs le vivre, est-ce que quelles sont voilà les valeurs qui sont importantes pour vous, est-ce que c'est le respect, est-ce que vous souhaitez un suivi médical comment, avec qui, est-ce que vous souhaitez vivre d'autres choses pendant votre grossesse, est-ce que vous souhaitez continuer à faire du sport, enfin il y a tellement de questions qu'on peut se poser sur le côté pratico-pratique, mais aussi sur comment j'ai envie de me sentir en fait, et qu'est-ce que je mets en place pour ça, dans mon couple aussi, et voilà, la naissance et l'après. L'après, comment j'ai envie de materner ou paterner mon bébé, quels sont les objectifs que je me mets et comment je peux y arriver. Et ça, ça tombe pas du ciel. Alors oui, être parent, on va pas à l'école pour ça, c'est pas des choses qui s'apprennent dans les cahiers, quoique on peut aussi se documenter, on peut s'informer, donc il y a des livres, il y a des podcasts, il y a des accompagnements, donc moi je propose des ateliers individuels sur certaines thématiques, hein, de la fertilité au postpartum, en passant par voilà, vivre une grossesse sereine, vivre un accouchement en conscience, préparer son postpartum, préparer son allaitement, voilà, il y a plein de thématiques qu'on peut préparer. Alors on ne peut pas tout préparer, et c'est là voilà, où je vais mettre un bémol, c'est des choses qui se vivent et on ne peut pas tout maîtriser, mais quand même avoir une idée de ce qui se pratique, pourquoi, de nous, comment on aimerait vivre les choses, et en balayant toutes les trends et toutes les modes, mais moi et nous, comment on voit les choses en fonction de notre histoire, etc., et bien déjà ça permet de vous ancrer. Hein, vous avez les pieds bien enracinés et avec la souplesse, j'aime bien l'image du roseau hein, qui est enraciné mais qui a toute la souplesse de s'adapter aux circonstances et de pas passer par la case dépression si ça se passe pas exactement comme on avait prévu, parce que rarement ça se passe comme on avait prévu. Il faut faire face à tous ces imprévus là, mais globalement d'être quand même ancré sur notre ligne de mire quoi, hein, toujours avec cette image du bateau, où est le phare, où est notre phare. Là, je suis en train de faire des gestes que vous ne voyez absolument pas, mais c'est très rigolo. Deuxième point, c'est de faire le point sur comment vous avez été élevé, sur quel modèle éducatif vous avez grandi, vous avez été materné, comment vos parents ont vécu votre grossesse, enfin votre vie gestationnelle, les essais bébés, ce que vous avez été désiré, comment s'est passée votre naissance, et sur quel mode éducatif et de parentage vous avez grandi. Alors il y a fort à parier que c'était pas du tout le même modèle que vous vibrez, que vous imaginez, parce que en fait on n'était pas documenté, on n'était pas nourri de la même façon, et dans chaque génération il y a des changements. Comme je le disais, sur nos trois dernières générations, il y a eu énormément de changements, comme à l'échelle de la société en général, sur le maternage, sur le paternage, la place du parent, du coparent, etc. Il y a eu d'énormes changements, on n'y échappe pas, et encore plus dans cette sphère de société, de vie. Et faire le point aussi chez les autres, chez nos proches, que ce soit nos amis, nos collègues, etc. Quel est leur propre modèle, comment ils vivent cette phase de vie, comment ils élèvent leurs enfants. Et quels sont les jugements que je porte sur tout ça ? Alors oui, se pencher sur les jugements des autres, c'est une chose, mais aussi ayons conscience de ce que nous on juge de nos proches. Est-ce que c'est trop sévère ? Est-ce que c'est pas du tout la vision de l'éducation que j'ai ? Est-ce que ça, je trouve ça génial ? Je sais pas comment ils font, moi je pourrais pas, ils sont trop, ils sont pas assez, ma mère elle a fait ça, je comprends pas pourquoi, mon père était trop absent. Enfin voilà, il y a tellement de choses qu'on peut se dire, et ça c'est des choses qu'on travaille aussi en accompagnement, si vous avez besoin d'être un peu guidé là-dessus, bah évidemment, on en discute très très souvent. Donc réfléchir à vos souhaits et vous ancrer, vous documenter, ça passe par cette phase-là aussi, très souvent, faire le point sur comment moi j'ai grandi et donc faire un mix de tout ça, entre les jugements que je porte sur ce qui peut se faire autour de moi, sur ma vision et mes ressources aussi. Est-ce que j'ai les ressources d'aller vers là où j'imagine que j'aimerais aller avec ce que j'ai reçu? Parce qu'il y a je dis pas que c'est impossible, évidemment, moi j'ai pas du tout reproduit mon schéma, absolument pas, mais simplement il y a quand même un pont entre les deux, on vient aussi de là, et l'idée c'est pas de se dire je coupe, et je deviens un atome, un électron libre, et je ne viens de nulle part, on a des racines, et ces racines-là, ben voilà, quelle vision on en a, qu'est-ce qu'on en retire, et c'est quand même sympa aussi d'essayer de... Voilà, ça dépend, voilà, si vous avez vécu des traumatismes, des violences, vous venez d'une famille qui n'est pas saine, évidemment, c'est très compliqué de faire ça. Mais voilà, pour les personnes qui ont des ressources familiales solides et satisfaisantes, faire le point sur aussi ce qui vous a fait du bien, ce qui vous semble important à itérer, à réitérer, ou alors des valeurs qui étaient fondamentales dans votre famille ou qui étaient transmises, mais pas de la même façon. Par exemple, je sais pas moi, mes parents voulaient absolument que je finisse mon assiette, enfin, on est tard hein, dans la sphère maternage, hein, mais ils voulaient absolument que je finisse mon assiette. Alors moi, j'ai pas envie de reproduire ça, je prends un exemple totalement fortuit, mais quand même, l'idée de pas gaspiller est super importante pour moi, comment on peut la mettre en place? Et ça, c'est, bon, c'est sur l'éducation, mais ça peut être sur plein d'autres choses. Voilà, faire du cododo, pas cododo, allaiter, pas allaiter, faire du portage, pas du portage, comment répondre aux terrible two et nos enfants qui voilà, crient, etc. Bon, bah voilà, il y a toute une palette de réponses possibles et de s'ancrer, en fait, de prendre conscience des modèles autour de soi, des modèles qui ont infusé à l'intérieur de nous et ce qu'on aimerait pouvoir apporter, c'est déjà un grand, grand pas. Et la dernière étape, c'est ce qu'on appelle la communication non violente. Maintenant que vous avez une idée de ce que vous souhaitez vivre et que vous mettez en place des choses pour le vivre comme ça, eh ben il va falloir passer par la case communication avec vos proches. Parce que sinon, ben, vos proches, ils vont faire comme on a toujours fait, comme ce qui leur semble normal. Alors là, je vais parler plus du postpartum, et c'est aussi la petite ressource que je vais vous apporter en plus, qui je pense va être beaucoup téléchargée, je le sais d'avance. Ça va être un audio, donc peut-être que là vous l'avez vu dans la playlist du podcast, mais c'est un audio que vous pouvez transmettre à vos proches pour préparer votre postpartum et leur expliquer pourquoi vous souhaitez, par exemple, vivre un postpartum plutôt en sphère intime, au moins les premiers jours, les premières semaines de l'arrivée de votre bébé, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui a été mis en lumière. Vivre le postpartum à pleine balle, hop, je me lève, je viens d'accoucher, je serre la tarte aux pommes faite maison à tata Janine qui vient prendre le bébé alors qu'il dort et le réveiller, et puis faire plein de photos, il y a 10 personnes dans la maison, tout le monde se barre, j'ai tout le ménage à faire, enfin c'est pas très sain pour notre rémission, notre récupération, et puis pour le lien familial, on est quand même sur une vision aujourd'hui où on a envie d'être un peu plus dans notre petit cocon, construire notre petit cocon, parce que ça se construit, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, et le lien d'attachement ne se construit pas en un claquement de doigts. Comprendre son bébé, ça se construit pas en un claquement de doigts, et récupérer de l'accouchement, ça nécessite de l'horizontalité. Allaiter ou donner le biberon, ça prend du temps, et tout ce temps-là, eh bien, c'est important qu'on puisse être en intimité pour le vivre, et parfois, bah, les familles, elles ne comprennent pas. Alors, si on ne leur explique pas, bah, elles ne peuvent pas comprendre, et la façon de l'expliquer, voilà, c'est là où ça va être hyper important de réfléchir à tout ça si on souhaite préserver des liens familiaux et amicaux satisfaisants. Donc, pour comprendre la communication non violente, c'est un concept qui a été mis en lumière par plusieurs psychologues. Moi, je pense notamment à Thomas d'Ansembourg, qui n'est pas le fondateur de la CNV, mais c'est un psychothérapeute, je crois, belge, qui, moi, je l'adore. J'adore ce monsieur, qui fait beaucoup de conférences. Vous pouvez écouter des podcasts avec Thomas d'Ansembourg. Il a une chaîne Instagram qui est hyper intéressante. Enfin, bref, un super monsieur. Puis, il a écrit des livres très, très sympas aussi. Et donc, c'est lui qui vulgarise beaucoup ce concept de communication non violente. Donc je vais vous donner les grandes étapes. C'est quand on a besoin de communiquer quelque chose à quelqu'un qui n'est pas toujours un message facile à transmettre. Alors déjà, scindons le désaccord et le conflit. Quand on va exprimer notre point de vue à quelqu'un, même si la personne n'est pas forcément d'accord avec cette façon de faire ou que nous, on va pas être en accord avec la façon dont la personne a fait, ça veut pas dire que ça doit déboucher sur un conflit. Hein. On peut ne pas être d'accord et ne pas être en conflit. Hein. Et c'est le principe des relations humaines saines, c'est de pouvoir s'exprimer sans partir sur un conflit. Le conflit, c'est émotionnel, et c'est une rupture des liens de communication saine, et on part dans des schémas plus toxiques. Donc, les étapes d'une communication non violente, je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre les étapes. Si on repart sur la question du postpartum, vous n'avez pas envie des visites à la maternité et votre maman vous dit, c'est le hasard hein, encore une fois, on va dire la belle-mère, hein, parce que c'est souvent la belle-mère qui revient dans les accompagnements, elle vous dit, bah voilà, on viendra vous voir, on va faire la route quand on sait que t'as accouché et puis on va venir vous voir à la maternité. Enfin, je te demande même pas ton avis. Donc là, OSBD. OSBD, c'est le sigle de la communication non violente. Observation. Sentiments, besoins et demandes. Observation, je comprends que toi tu aimerais voilà, faire ça, j'entends, mais sentiments, moi ça me convient pas, c'est pas quelque chose qui me... Voilà, je suis pas d'accord avec ça, ça me... Voilà, le fait que tu m'en parles sans forcément me demander mon avis, c'est l'observation, ça me... Bah, c'est pas convenable pour moi, ça me frustre, ça me rend triste, ça me met en colère, bref. Sentiment, qu'est-ce que je ressens et de quoi j'ai besoin. Et c'est là où on explique de quoi on a besoin et quel est notre ancrage, vous savez, cet ancrage dans notre vision. Voilà comment nous, on aimerait vivre les choses. On n'est pas obligé d'extrapoler, de se justifier. Hein. Exprimer le besoin, c'est pas forcément exprimer sa vision. Alors la vision, moi je propose de l'exprimer uniquement si vous savez que la personne est capable d'entendre. Si la personne, elle est bornée, ne vous faites pas chier, juste vous... Dites de quoi vous avez besoin. Hein, c'est, bah, on a besoin de vivre ce moment dans l'intimité. Voilà, on aimerait vivre ça tous les trois. Donc la demande, c'est ok, bien sûr, vous pourrez venir voir bébé, mais au moment où nous, on vous dira que c'est possible. Est-ce que c'est d'accord ? Voilà, il faut qu'on trouve un accord à un moment. Et donc on laisse la personne s'exprimer. La communication non violente, c'est voilà comment moi je me sens face à ce que tu me montres, à ce que tu me proposes, à ce que tu me dis. C'est pas je t'accuse, tu es tout le temps comme ça, ça va jamais comme toi tu veux, et puis enfin, voilà, ça c'est de la communication qui est pas très saine, qui est une communication qui est assez fréquente, mais c'est pas là où on va trouver des solutions. Le but c'est de trouver une solution saine pour tout le monde. Et donc dans l'audio que là je vais enregistrer juste après, que vous allez trouver à la suite de cet épisode, c'est un audio que vous pourrez bien sûr écouter, où je vous propose de le faire, de le communiquer à vos proches si vous êtes dans cette vision d'un maternage proximal, intimiste, avec ce fameux mois d'or et puis peut-être le concept du quatrième trimestre en douceur, etc. Enfin bref, vous voulez vivre le postpartum de façon intimiste et les personnes viennent vous voir, c'est quand vous l'aurez décidé et qu'elles puissent être des personnes ressources, qu'elles vous amènent un petit plat, qu'elles vous proposent de faire un brin de ménage si vous êtes open pour ça, qu'elles vous apportent un petit quelque chose qui sera satisfaisant pour tout le monde. Et dans les demandes, moi ce que je vous propose aussi, c'est de faire des demandes qui sont réalistes par rapport à la personne que vous avez en face de vous. Si vous dites à quelqu'un qui déteste cuisiner, de vous emmener un plat fait maison, c'est peut-être un peu ambitieux et pas très respectueux non plus de cette personne qui n'aime pas ça, voilà, qui aime pas ça. On peut peut-être juste lui demander simplement de respecter le fait que vous voulez vivre ce moment en intimité et vous laisser voir comment vous voulez introduire les visites. Ça, bien sûr, ça c'est de votre plein droit et personne ne peut vous imposer l'inverse, voilà, c'est votre vie. Mais l'implication pour les personnes, bah, c'est d'essayer d'adapter voilà, aux personnes. Alors, on peut aussi ne pas faire de demande particulière. Si c'est des personnes qui adorent préparer des petits plats, leur demander, voilà, tu peux me préparer, s'il te plaît, ta super blanquette, que je la mette au congèle, ce serait génial. Souvent, les personnes, elles sont trop contentes. Mais voilà, si on ne veut pas forcément faire une proposition très, très carrée, c'est d'exposer justement ce besoin de vivre les choses comme ci, comme ça. Voilà ce qui a été démontré que les personnes aiment vivre en postpartum pour vivre le mieux possible. Si vos proches vous aiment, ils accepteront de, voilà, d'entendre que votre cadre il est comme ça, et que peut-être ils n'ont pas vécu les mêmes choses, et peut-être que les personnes peuvent vous dire « Ah bon, je comprends pas, je connais pas, ça peut être le moment de découvrir pour eux ou pour elles le concept. » Alors je prends vraiment appui sur ce concept-là, mais peut-être que c'est pas le vôtre et que vous n'avez pas envie de vivre les choses comme ça, et soit, hein, y a pas de jugement à avoir, encore une fois, c'est clair. Simplement, je sais que c'est quelque chose d'assez fréquent qui revient dans les accompagnements, de comment je vais pouvoir communiquer avec mes proches sur cette envie de vivre un maternage proximal en intimité. Donc voilà pourquoi je vous fais un audio là-dessus. Alors, pour résumer les trois étapes, réfléchir à vos propres souhaits. Deuxième étape, faire le point sur les modèles autour de vous et ceux qui ont été les vôtres quand vous étiez jeune. Et l'OSBD, la communication non violente, j'observe que comment je me sens face à cette observation, de quoi on aurait besoin ou j'aurais besoin, et voilà ma demande. C'est assez carré, c'est surtout pour prendre l'outil en main et s'entraîner aussi à avoir une communication assertive. Une communication assertive, c'est de pouvoir s'affirmer clairement, sans second degré, sans jugement, sans malentendu, sans voilà, de façon claire, mais respectueuse aussi de l'autre et à l'écoute de ses besoins. Voilà, c'est un idéal. Après, on fait vraiment comme on peut là-dedans, mais je pense que cette trame, elle est plutôt déjà intéressante. Bon, j'espère que cet épisode vous aura un peu éclairé. Peut-être que ça peut être douloureux aussi, parce qu'on peut se rendre compte que nos relations, elles sont pas si faciles que ça avec nos proches, que la communication n'est pas toujours aussi aisée, ou que ça peut être hyper confrontant pour nous de se positionner, voire hyper angoissant. C'est des sujets, encore une fois, qu'on peut discuter en accompagnement. N'hésitez pas à me contacter si c'est un enjeu pour vous. J'adore ces thématiques-là. C'est vraiment des thématiques qui me donnent beaucoup de plaisir à accompagner. Je suis pas celle qui va juger du comportement d'eux, ou voilà, bien sûr les formes de violence ou de non-respect sont condamnables, mais vous avez votre propre vision, vos proches ont telle ou telle vision, tel ou tel comportement, et l'idée c'est de trouver l'issue la plus favorable pour vous dans votre équilibre. Je vous souhaite un bon process de digestion de tout cela. Je vous mets à disposition l'audio de mise en lien avec les proches autour du postpartum. Vous pourrez le télécharger gratuitement et envoyer l'audio à vos proches directement si vous le trouvez bien fait et qu'il reflète bien votre propre vision. C'est un audio qui va être aussi ouvert à la discussion. Voilà, c'est un audio assertif qui permet d'exprimer clairement et dans la douceur la vision de ce postpartum dans l'intimité, tout en laissant aux proches qui le souhaitent la possibilité de vous poser des questions au besoin, mais c'est vous qui décidez de la limite que vous mettez autour de ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et au plaisir d'échanger avec vous. Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast. Vous pouvez aussi partager auprès de vos proches qui sont concernés. Et si vous souhaitez vous aussi être accompagné sur votre chemin du désir d'enfant et de la maternité, mes séances se font au cabinet à Vannes ou à distance par visio. Envoyez-moi un message privé sur Insta ou un mail à edvige@untempsournaître.fr. À bientôt.